Axel, assis.
Aziz Lumière.
La Geek Nation partie 2, c'est maintenant à fond dans tes oreilles.
Et c'est à fond dans vos oreilles. C'est à fond dans vos oreilles qu'on se retrouve pour cette deuxième partie de la Geek Nation. Nous sommes en deuxième semaine de février. Nous sommes en année bissextile, donc nous avons plus de jours ce mois-ci.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais, puisqu'il y a un jeu qui sort le 29, non ?
Bah oui, en plus.
Arnaud,
bah,
t'as
oui.
quelque chose à dire ?
Pour l'instant, non, mais quand je démarrerai ma chronique, peut-être.
Oui, bah attends. Laisse-nous le temps de le démarrer, ta chronique.
Je laisse le temps,
Mais en fait, j'ai envie de faire démarrer le jeu à Axel. Non, je déconne.
Moi, ça me va, hein, si vous voulez.
Non, il est occupé, là. Ah. Bon, Bichette. Arnaud, on va parler gaming, évidemment. Ouais. Tu vas nous parler d'un de tes jeux préférés.
J'imagine.
Encore une fois. Si ça dure 3 heures, on n'est plus là.
Et je serai moins exhaustif. Alors, sachant que je ne l'ai pas été déjà sur Kingdom Hearts. Donc...
Alors... Quoi ? Mais tu te fous de qui, là ?
J'aurais pu aisément, sans forcer, doubler le temps.
C'est un cauchemar.
Oui, en plus, il n'avait rien écrit à l'époque.
C'est ça, ses contenus, il a écrit quelque chose.
J'avais juste écrit des dates.
Bon, eh bien, Arnaud, oui. Au moment où j'ai lancé le jingle, tu peux y aller. Et nous, on va y aller.
Alors, donc, je reprends ma question. Arnaud, tu as quelque chose à dire au sujet du 29 février ?
Oui, j'ai quelque chose à dire. Mais j'avais crafté une intro, alors j'attends qu'on me laisse...
Étalon du cul ! Étalon du cul !
C'est l'heure de parler gaming dans la Geek Nation.
Let's go.
Let's rock.
Étalon du cul te dit bonjour.
Eh bien...
Alors bonjour tout le monde, ou bonsoir, peu importe. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit jeu. Un petit jeu qui a été important pour moi, mais je pense qu'il a été important pour énormément de gens, et j'ai envie d'expliquer un peu pourquoi.
Et rappeler à ceux qui n'ont pas eu de PlayStation à l'époque, exactement. En quoi il est important.
Exactement, il était temps qu'on en parle. Je pense que c'est un de mes studios d'amour, et je pense que vous avez à peu près compris, à peu près tout le monde a capté de quoi j'ai parlé, de Final Fantasy VII. Je laisse profiter un petit peu... la musique, parce qu'on est sur quelque chose d'extraordinaire. Là, cette musique, c'est précisément la musique d'ouverture du jeu. Bon, là, bien sûr, j'espère que tout le monde a des frissons. Alors, Final Fantasy VII, pour le présenter vite fait, il est sorti le 31 janvier 1997 au Japon, sur PlayStation 1, et le 17 novembre 1997 en Europe. Alors, vite fait, je vais présenter un
peu... Pour la première fois.
Ouais, bien sûr. Je vais le présenter vite fait, la saga Final Fantasy, parce que je pense qu'il y a des gens qui ne connaissent peut-être pas. Mais Final Fantasy, à la base, c'est un RPG qui est sorti sur la première NES en 86 ou 87, je ne me rappelle plus.
87.
87. Et du coup, qui était dans le style Heroic Fantasy.
C'est très fort. Hein.
C'était très fort, ouais. Qui est dans le style Heroic Fantasy. C'est un RPG dans lequel tu pouvais choisir une classe à la base. En fait, le RPG, c'était un peu l'idée de réussir à mettre Donjons et Dragons dans un jeu vidéo. Et 80% du bestiaire de Final Fantasy premier du nom, c'est Donjons et Dragons. Il y avait énormément de bonnes idées de gameplay. Et chaque fois qu'ils ont ressorti un nouvel épisode, ils ont à chaque fois fait d'énormes différences. Donc à chaque fois, ce n'est pas le même monde. À chaque fois, il y a des nouvelles idées de gameplay. Il peut y avoir des classes qui peuvent évoluer dans le jeu. Il peut y avoir un peu plus de scénarios. Le scénario a commencé à vraiment se pousser vers l'épisode 5 ou 6. Et à partir de l'épisode 6, on a commencé à avoir un truc un peu plus industriel, mécanique et tout ça. Pour finir sur le premier jeu justement qui est sorti de la série sur PlayStation 1, qui était un peu dans un univers un peu cyberpunk, on peut dire.
Complètement cyberpunk.
Ouais, avec très, très, très technologie. Avec, à la base, on avait des armes, des épées, des arcs et tout ça. Et là, on a plus des pistolets, mais il y a toujours des épées, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Et voilà, donc c'était extraordinaire. Alors Final Fantasy, c'est un des premiers jeux qui exploite à fond les cinématiques de synthèse, mais genre vraiment à fond, et elles étaient pour l'époque extrêmement belles. Ce jeu-là, c'est un jeu qui a eu un accueil incroyable. Il s'est vendu à 2 millions d'exemplaires en 3 jours au Japon. C'est extraordinaire à l'époque, surtout. Et ils étaient moins nombreux, tout le monde n'avait pas de PlayStation. Et quand même, ça a été quelque chose qui était quand même extraordinaire. Donc dans Final Fantasy VII, le principe, c'était qu'on incarnait un éco-terroriste qui travaillait pour une bande d'éco-terroristes qui s'appelle Avalanche.
Le héros n'est pas un éco-terroriste, c'est un mercenaire.
C'est un mercenaire. Et du coup, le héros s'appelle Claude. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais j'aime bien l'appeler Claude.
Soit tu l'appelles Clad, comme on l'a eu en français, soit tu l'appelles Cloud.
On peut l'appeler Nuage.
Ou Nuage.
Je vais parler de la version française aussi, justement, parce que c'était particulier. Et en fait, on incarnait ce personnage et... comme dans tous les Final Fantasy, en fait, on va énormément bouger à travers le monde, découvrir des nouveaux lieux, et il y a une histoire qui est quand même complexe, qui se développe de plus en plus. Quand on commence au début, à la fin, ça n'a rien à voir à chaque fois, et c'était incroyable. Il y avait un système de... Dans le gameplay, il y avait un système de...
Continue.
Ouais, non, mais parce que je mets un... Ça, c'est pour
meubler. Ouais, mais on va devoir couper dans la chronique, maintenant.
Oui, il n'y a pas de souci. Et du coup, il y a un système dans le gameplay qui était assez intéressant, où on utilisait des matérias qu'on pouvait associer à des armes. Et certaines armes avaient plus ou moins d'emplacements pour mettre des matérias. Et certaines armes avaient des emplacements qui étaient liés. Et du coup, ces matérias pouvaient avoir des effets qui se cumulaient, qui s'associaient entre les deux. Et du coup, pour donner un exemple, par exemple, on pouvait avoir la matéria tout, qui permettait de tout cibler, et une matéria de feu ou de soin qui permettait du coup de cibler tous les ennemis ou tous les alliés. Et du coup, il y avait énormément de possibilités dans le jeu, c'était très intéressant. Je vais pas tout faire non plus, parce que je pense que sinon on va y rester la nuit, et apparemment j'ai pas le droit.
Non, on prévient, c'est tout, on prévient. Hein. Sinon, tu fais une chronique chez moi, à part, tout seul dans ton coin.
Du coup, Final Fantasy VII, pour énormément de gens, ça a été le premier RPG, sachant que c'était le premier Final Fantasy qui était disponible en Occident. Avant, c'était réservé au Japon.
Il y a eu des FF sur Super Nintendo aux États-Unis, non ?
Dans l'Occident total, je pense, surtout en Europe.
Ah, bah oui, ouais, Europe, oui.
Oui, mais non, oui, il y a eu
aux États-Unis,
ils ont eu sur les Super NES. Mais je pensais surtout à l'Europe, quand je pense à l'Occident. Je sais que c'est un peu Europe-centré, mais, mais disons que pour moi, ça a été mon premier Final Fantasy, et comme beaucoup de gens, j'imagine. Et c'était une époque où, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il n'y avait pas beaucoup de pubs à la télé qui montraient des jeux et tout. Et il y avait Final Fantasy VII, je me souviens.
Plus qu'aujourd'hui,
bien.
En tout cas.
Hein ?
Plus qu'aujourd'hui, en tout cas.
Non, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de pubs. Mais après, je ne regarde pas la télé.
Bah, donc, en jeu vidéo, c'est au cinéma qu'il y en a, mais sinon...
Moi, je me rappelle, quand j'étais tout gamin, que je voyais la pub à la télé, et j'étais même allé voir South Park, le film, et j'avais vu la pub de Ocarina of Time au cinéma. Donc, c'était vraiment à l'époque où il y avait des grosses pubs comme ça. C'était un phénomène. Ce jeu, c'était un phénomène. Aujourd'hui, il y a eu énormément de portages de Final Fantasy VII, et il y a à peu près 10 millions de ventes qu'ils estiment du jeu de base qui a été vendu.
Oui, le jeu PS1, oui.
Ouais, sur le jeu, enfin, avec les portages PS4 et tout, mais ça reste le jeu PS1 qu'ils ont refait. Je compte pas tous les autres jeux et tous les remakes et tout.
Oui.
Il y a eu une version internationale qui est sortie aussi en fin d'année japonaise. Parce qu'elle était sortie qu'au Japon, en fait, c'est international. C'était la version complète de FF7 que nous, on a eu quasiment. Parce qu'eux, au Japon, ils n'ont pas eu la même version que nous, on a eu. Par exemple, dans la version japonaise, ils n'affrontaient pas les armes en combat. Il n'y avait pas ce genre de combat. Et nous, ça a été rajouté pour nous. Et pour eux, du coup, ils l'ont rajouté aussi. Ils ont aussi eu un équilibrage sur le jeu, genre des objets qui ont changé, des bugs qui sont enlevés, des ennemis qui étaient trop simples à tuer, et tout ça, ce genre de trucs. Ils avaient même un quatrième CD dans la version internationale où il y avait une sorte de lexique dedans. On pouvait voir des systèmes de combat, voir descriptions d'objets, et tout ça. Et au Japon, il y a aussi un jeu qui s'appelait Chocobo Mystery Dungeon, qui était sorti un an après au Japon. Et il avait un CD bonus. Avec ce CD bonus, tu pouvais avoir une sauvegarde de Final Fantasy VII où tu commençais le jeu avec toutes les armes toutes les limites, toutes les matériaux à fond, tous les objets en 99 exemplaires. C'était c'est genre un remac du jeu, quoi. C'est, tu commences avec une...
Mais où est l'intérêt si tu commences avec ça?
Je sais pas, je D'accord. sais pas du tout. Mais ils ont dû se dire, c'est trop difficile, on va peut-être les aider. Je trouve ça incroyable.
S'il pouvait faire ça pour Dark Souls.
Franchement, ce serait pas mal. Donc du coup, Final Fantasy VII, ça a eu un énorme impact, et je pense qu'il faut que je parle aussi de tout ce que ça a rajouté. En 2002, tu as Squaresoft qui avait fait il me semble que c'était au Tokyo Game Show qu'ils ont commencé à parler, qu'ils projetaient de faire une compilation de Final Fantasy VII, et donc du coup de créer plus de jeux et de faire en fait un univers cross-média pour Final Fantasy VII, un peu comme ce qu'ils ont fait des années plus tard avec FF15 par exemple, ou avec la compilation FF13. Et du coup, pour ça, il y a eu énormément de trucs qui sont sortis, et je vais vous en parler vite fait. En 2004, il y a un jeu qui était exclusif au téléphone mobile au Japon et qui est sorti aussi en Amérique. Qui
s'appelle... Et c'est reparti.
C'est un bout de Kingdom Hearts.
qui s'appelle Before Crisis. Je n'y ai pas joué, hein, je ne vais pas vous mentir. Ça se passait 6 ans avant FF7 et on jouait les Turcs.
Les Turcs?
Ouais, les Turcs.
C'est ton temps qui reste.
C'était. J'ai pas joué, il n'y a eu aucun remake fait et tout, c'était pas très intéressant. En 2006, sur PlayStation 2, est sorti un jeu où on contrôlait Vincent qui s'appelle Dirge of Cerberus.
Et ces jeux... On a entendu.
C'est le but.
Et ce jeu, il se passe 3 ans après Final Fantasy VII. Et moi, j'aime bien ce jeu pour une raison. Ce que vous entendez là actuellement, la musique a été faite par Gackt. Je ne sais pas si vous connaissez Gackt, c'est il fait du métal au Japon. Et c'est une grosse star au Japon, quoi. Et Nomura est super fan de lui. Et il y a des rumeurs qui disent qu'apparemment il serait inspiré de lui pour faire Clad. Après, Gackt lui-même a dit qu'il s'était inspiré de lui pour faire Léon, Squall dans FF8. Après, Nomura a démenti quand même. Mais on va reparler de Gackt un petit peu. Dirge of Cerberus, c'était un action RPG pas foufou.
Absolument.
Au moins, on contrôlait Vincent. Il était très beau quand même comme jeu. Après, il y a eu un jeu mobile, le Lost Episode qui s'appelle, en 2006, Dirge of Cerberus aussi, mais on ne va pas spécialement en parler, c'est pas
incroyable. Qui est perdu, comme son nom l'indique.
c'est ça. En 2007, fin 2007, il sort Crisis Core sur PSP. Là, ce coup-ci, ça va parler 5 ans avant de FF7 et on va jouer Zack. Et dans ce jeu-là, justement, qui est aussi un action RPG, il y a un nouveau personnage qui s'appelle Genesis, qui n'existait pas dans l'univers de FF7 avant, et que lui, par contre, a été totalement inspiré de Gackt. Et là, on ne peut pas se louper. Il a un style improbable et il est incroyable. Après, franchement, je vous conseille d'écouter
incroyable
Gackt.
Incroyable dans quel sens?
Je le trouve ouf, le personnage. Quand
même. Il est nul à chier, putain, c'est un Sephiroth-like.
Non, mais pas Gackt.
Et oui, c'est reparti.
Non, mais Gackt, pas le jeu. Gackt. Gackt est un personnage incroyable. Le Genesis, il est tellement incroyable que j'ai oublié à quoi il servait. Donc, non, c'était
les
pas...
Les vieux du Muppet Show, retour.
Et ça, c'est pour les jeux vidéo. En 2005, est sorti un film d'animation dans l'univers de Final Fantasy VII qui s'appelle Advent Children. Et il me semble que ça se passe 2 ans après les événements de Final Fantasy VII. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas, mais il est extrêmement beau. Et quelques années plus tard, est sorti une version en Blu-ray complète avec 30 minutes en plus et qui était moins censurée parce qu'il y avait quand même du sang et tout. Et ça parlait un peu du retour de Sephiroth, encore une fois. De toute façon, quoi qu'il arrive dans Final Fantasy VII, il y aura Sephiroth. Voilà. Je pense que ça aussi, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Sephiroth, qui est devenu un des méchants les plus emblématiques de la saga, et même des méchants en général, quoi.
Mais des méchants en termes de jeux vidéo.
Oui, de tout. Son impact sur la culture populaire a été extraordinaire. On a Last Order qui est sorti en 2005, qui était un OAV en animé qui racontait un peu les événements de Nibelheim, qui était plutôt joli.
Oui, mais plutôt inutile.
Oui, mais c'était joli, quoi. Ça se prend, moi, j'ai envie de dire.
C'est vrai.
Un animé de FF7, ça se prend.
Oui, non, mais c'est vrai.
Surtout s'il est beau. En 2009, il y a une nouvelle et un autre dessin animé qui était sorti qui s'appelle On the Way to Smile, Et ça fait le lien entre FF7 et Advent Children. Donc si vous vous rappelez du personnage extrêmement charismatique de Denzel dans Advent Children, c'était le petit gamin là qui était... Bah, qui ne servait à rien, mais voilà.
Et bien,
ça parle de lui.
Parfait.
Voilà, ça parle de lui, c'était sympa. En 2011, ils ont aussi fait un livre qui raconte aussi l'histoire avant Advent Children. Donc toute cette phase entre FF7 et Advent Children, ils l'ont dosé, mais vraiment dans tous les sens. Et je voulais aussi parler d'FF7 parce qu'aujourd'hui, on a donc le remake qui va bientôt sortir, mais ce remake, ça a été un peu une fantaisie, si je peux me permettre, dans l'idée. Et c'était un truc incroyable. En 2005, ils ont fait une démo technique pour la PlayStation 3, et dans cette démo technique, ils ont montré Sephiroth Cloud qui arrive sur le train, sur le quai de Midgard.
Ils ont fait l'intro d'FF7.
Ils ont fait l'intro d'FF7, qui était incroyable, extrêmement belle, et depuis, tout le monde voulait un remake de FF7 à cause de ça. Et les mecs, ils ont démenti pendant des années en disant non, en fait, c'était juste une, c'était juste
pendant une vidéo. Officiellement 10 ans.
Pendant officiellement 10 ans, ils ont dit non, c'est juste une vidéo et tout. Et c'est rigolo, au Tokyo Game Show, il y avait des boîtes à suggestions où les gens, si vous voulez quelque chose, mettez-le dedans. Et ça, c'était un panneau sur lequel tu pouvais mettre tes affiches. Et majoritairement, c'était faites un remake à FF7. C'est vraiment, c'était abusé. Et en 2015, du coup, ils ont annoncé le remake d'FF7. Donc, qui était supposé être en plusieurs parties. Au début, il laissait le flou sur combien de parties on allait avoir. Mais globalement, tout le monde était d'accord pour que ça allait être une trilogie. C'est ce qui était le plus logique. Et c'est quand même assez couillu de se dire que tu vas sortir de base une trilogie, même si c'est Final Fantasy VII. Hein, ça peut totalement foirer. Généralement, tu sors un jeu, puis après, il y a des suites parce que ça marche. Mais directement de base une trilogie, surtout que les gens avaient énormément d'attentes sur Final Fantasy VII. Donc du coup, le jeu est sorti en plein pendant le confinement, le 10 avril sur PS4, 10 avril 2020. Je me souviens même qu'il l'avait sorti un peu en avance, justement, à cause du confinement. Mais du coup, c'était super de l'avoir un peu en avance.
Ils ont eu pitié.
Ouais. Un an après, ils ont fait une version Integrated qui était sortie sur PlayStation 5 avec un épisode bonus centré sur Yoshi.
C'est cette version qui est sortie sur PC.
Et c'est cette version qui est sortie sur PC. Et donc, tout ça pour en venir au fait que le 29 février 2024, comme on l'a dit, FF7 Rebirth qui sort sur PS5, et je suis méga chaud. Pour moi, Final Fantasy VII, en tant que jeu, je sais que ça peut faire jaser. Ça a été un des jeux qui a été le mieux noté dans l'histoire du jeu vidéo. Il est souvent mis comme un des meilleurs jeux de tout le temps. Et c'est légitime, hein, totalement. Ils ont fait un travail extraordinaire sur ce jeu. C'est un jeu qui, pour moi, et je pense, en tant que pour beaucoup de gens, c'est un jeu qui n'a pas de défaut. Un jeu qui n'a pas de défaut, c'est pas un jeu parfait en soi, c'est plus un jeu où toutes les propositions sont réussies. Même s'il y a des bugs ou quoi, ça arrive. Dans tous les jeux, il y aura toujours un problème quelque part. Peut-être une facilité de scénaristique, peu importe. Un jeu qui, toutes ses propositions sont réussies, c'est pas courant totalement, mais là, pour le coup, qu'on parle de scénario, qu'on parle de musique, depuis tout à l'heure je mets des musiques d'FF7 parce qu'elles sont incroyables, qu'on parle des graphismes parce que c'était extrêmement beau et c'était pas tout le temps qu'on avait des jeux comme ça. Ils sont arrivés sur PlayStation, ils ont donné une leçon à tout le monde et c'était incroyable. Et le système de combat aussi, super complexe, très prenant. Vraiment, on se fait pas chier une seule seconde chaque combat, on va pas pester, même s'ils sont assez nombreux, on peut le dire. Hein. Il y avait la question d'équilibrage aussi qui était un peu particulier. Et du coup, je voulais vous poser une question pour vous. Quel jeu vous considérez comme parfait ?
Ouh. Je vais être hyper original, mais Final Fantasy VII.
Ouais.
Moi, c'est
ça. Et ça m'étonne pas.
Il y a l'Edio qui en film pour marquer l'imaginaire en jeu vidéo, c'est FF7.
FF7. Un énorme impact sur la pop culture, un énorme impact sur tout. Hein, c'est quelque chose d'extraordinaire.
C'est difficile de faire un choix parce qu'il y a toujours des défauts, mais
non, c'est pas une question de défauts. FF7 aussi a des défauts, il a des problèmes.
La traduction,
la traduction française
et la version PC d'époque,
mais même dans sa version originale, il a des défauts. Il y a des équilibrages qui sont foireux, des combats qui sont peut-être un peu trop présents. Tu vois, mais c'est pas pour ça qu'il n'est pas réussi dans tous ses aspects. Tu vois,
ok, et je vais peut-être faire jaser. Alors, j'allais dire François Sable du temps, mais non,
tu peux, hein.
Nostalgiquement, je pourrais dire oui, mais pour être objectif le plus possible dans tout ce que j'ai pu faire, Rayman Legends,
ouais. C'est vrai qu'il est.
Il était cool celui-là.
Excellent, ouais.
Et graphiquement, l'ambiance, les sons, le gameplay.
C'est pareil, il n'y a rien qui est raté dans Rayman Legends.
Rayman Legend, c'est surtout la bande-son qui est extraordinaire.
Ah oui, oui, ça c'est chiant. Pour toi ?
Silent Hill 2.
Silent Hill 2, ok.
Comme je te comprends.
Je vais citer quelques exemples de jeux. Silent Hill 2, c'était incroyable. Hein.
Le film 3D, alors.
Et après, vous allez peut-être dire que vous n'êtes pas d'accord. Il y en a un, je sais que je vais dire, il y en a un qui va râler, mais on peut bien savoir à qui, alors. Mais par exemple, Resident Evil 2 sur PlayStation 1, qui est ouf, un jeu parfait.
Oui,
il est ouf. On avait aussi le premier Metal Gear, qui était un jeu parfait.
Oui.
Encore une fois, parfait, c'est... pas dire qu'il n'y a aucun défaut, mais que toutes ces propositions sont impeccables.
Ouais, mais tu tapes dans les grands classiques de la PS.
Oui, bah, je vais, oui, après, je peux évoluer. Je peux parler de Super Mario 64.
Metal Gear ou Metal Gear Solid ?
Metal Gear Solid. Super Mario 64, Ocarina of Time, sont des jeux qui n'ont rien loupé, tu vois. Breath of the Wild, c'est un jeu extraordinaire.
Et sa suite ?
J'attendais que tu râles, mais...
Vous n'avez pas plus convenu, les mecs ? Sérieux ?
Mais c'est justement, les jeux qui sont parfaits sans défaut, c'est des jeux qui sont... convenu. God of War 2018, par exemple, c'en est un.
Pour le coup, je trouve que le Ragnarok réussit mieux.
Ouais, mais c'est pas pour ça qu'au moment où il est sorti...
Et pour revenir sur les Breath of the Wild, etc., ben moi, je me suis fait profondément chier. Ils m'ont cassé les couilles comme jeu.
Après, il y a des gens qui n'aiment pas FF7, tu vois.
Oui, non, mais d'accord, mais il y a des gens qui n'ont pas de goût.
Donc, du coup, comme ceux qui disent que Breath of the Wild, ils seront chiés dedans.
Ça, c'est de l'intelligence.
Eh, les vieux du Muppet, on se ressent, là.
Si je peux t'en sortir deux...
Sors.
Moi, je pense que Little Big Planet 2,
ouais, okay.
À l'époque où il est sorti, et tout ce qu'on pouvait faire avec, pour moi, c'était un jeu, pas parfait, mais dans son mood, il était parfait.
Parce ok. C'est comme ça que tu l'as ressenti, en tout cas.
Et puis, alors là, c'est plus personnel, mais Asterix et Obélix XXL sur PS2.
Oui, alors non, là, du coup.
C'est
nostalgique.
Et que t'aies kiffé, ça m'étonne pas. Mais
Après, comme t'en as cité plusieurs... Eh ben,
tu peux citer autant
je rejoins aussi Silent Hill 2, putain, mais quel chef-d'œuvre celui-là, c'était incroyable.
Ouais, c'était quelque
c'était
chose.
Incroyable. Pour moi, c'est simple. Hein. Je pense que, et là, ça me fait mal de le dire, avec KH2, c'est les deux meilleurs jeux de la PlayStation 2.
Et pourquoi ça te fait mal de le dire ? Redis-le.
Parce que KH2 est extraordinaire, mais il n'y a pas d'après KH2.
On aurait aimé, mais non.
On aurait aimé, mais ça n'existe pas.
Moi, j'en ai un qui est un peu moins convenu, mais je pense que tout le monde serait d'accord, c'est Super Meat Boy. Je ne sais pas si vous avez joué à Super Meat Boy.
Non, je ne l'ai pas fait celui-là.
C'est un jeu, c'est un platformer assez difficile. Et il est impeccable. Son gameplay est tellement génial. Tu ne peux pas mourir en disant que le jeu a foiré quelque chose.
Non, ouais,
c'est toujours de ta faute.
Il paraît que c'est de ta faute. Si tu meurs dans Super Meat Boy, il paraît que c'est de ta faute.
Et l'OST original, parce qu'après, quand il est ressorti sur PS4, ils ont changé l'OST avec des problèmes de droit du premier. Elle est impeccable. Il n'y a pas un son qui est foiré. C'est un truc, je l'écoute régulièrement, juste comme ça, mais c'est impeccable.
Et tiens, Sea of Stars.
Sea of Stars, ouais, exactement.
Ouais, si c'est ça votre définition du jeu parfait, autant mettre Luigi's Mansion et Castlevania Symphony of the Night.
Ah, pas Luigi's, mais Castlevania Symphony of the Night.
C'est un jeu qui loupe rien.
Et puis moi, il y en a un, je sais que là, il est ultra controversé, que la plupart des gens l'ont détesté, mais moi, je trouve que justement, dans toutes ces propositions, il a su renouveler le truc et qu'il n'a pas été aimé, c'est DMC Devil May Cry.
Oh oui.
Oh,
oui. Je te serre la main.
Merveilleux jeu.
Le DMC Devil May Cry, il revoit la patte graphique, il revoit l'ambiance générale du jeu.
La musique,
elle est incroyable.
Pour moi, après le premier, c'est le meilleur de la saga. Hein.
Ah, pour moi, c'est pas après le premier, c'est le meilleur de la saga.
Même le 5, il est.
Le 5 est très bien, mais le problème du 5, c'est qu'ils ont dit viens, on reprend le 4 parce que les gens n'ont pas aimé DMC Devil May Cry, et ils ont remis. Et en plus, pour tout ce qui est Nero, ils ont dit. En fait, viens, on fait la continuité du Dante de DMC Devil May Cry. Ça va passer comme une lettre à la poste. C'est passé comme une lettre à la poste. Et c'est, encore une fois, une question d'intelligence. Jouez à DMC Devil May Cry. Profitez de ce qu'il vous propose parce que jamais Devil May Cry ne s'est renouvelé autant que ça.
Et il n'a pas vieilli.
C'est marrant que personne n'ait cité Shenmue.
J'y ai pas, pas joué.
Il y a très peu de gens qui ont joué parce que la Dreamcast déjà a méga floppé.
Ouais, ça.
Malheureusement.
Elle a méga floppé, elle était trop en avance sur son temps, je pense. Et qu'au final, Shenmue, c'est des gens qui avaient notre âge au moment où il est sorti qui l'ont marqué.
Ouais, c'est vrai.
Donc, fatalement, pour nous, c'est des gens qui ont déjà 20 ans de plus que nous. Donc, nous, Shenmue, moi, je les ai faits, les Shenmue. Ouais, je suis passé à côté parce que l'aventure du quotidien, à l'époque, c'est pas ce que je recherchais.
Messieurs, Arnaud a fait une chronique courte.
Oui, et puis j'ai pas cité Kingdom Hearts une seule fois, mais je vais faire quand même parce que Kingdom Hearts.
Ouais.
Ton son est très mal calé. Mais je voulais la faire.
Ben, je l'avais mis exprès pour conclure. Donc.
Ben voilà, il a conclu.
Bravo, bravo.
Merci les gars, merci. Votez Kingdom Hearts. Attends,
On aurait pu rajouter Super Mario World et Donkey Kong Country.
Oui, allez, on passe à la suite. La suite, c'est ton jeu, Axel.
Et ben, ça tombe bien parce que...
Papa, le jeu d'Axel.
C'est Super Mario World. Ah non, pardon.
Ça aurait pu.
Ça aurait pu.
C'est un jeu pour contrarier.
Oula, ah, c'est chiant ça.
C'est le contrario.
Ah, tu nous expliques le principe ?
Je suis très contrarié.
C'est un jeu très chiant.
Et je suis très contrario.
Moi, je suis très contrarié, j'adore ce jeu. C'est un jeu où on va volontairement... Bah,
contrariant. Prendre...
Oui, c'est volontairement contrariant, mais c'est pas ce que je voulais dire. Prendre le titre, par exemple. Donc moi, j'ai pris des titres de films et de jeux vidéo.
D'accord.
Et modifier des termes, soit en utilisant le contraire, soit en utilisant des mots similaires.
D'accord.
Le but, okay, c'est de faire marcher sa logique et de trouver... Alors, je vais vous dire, mon jeu n'est pas très long, pas très étoffé. J'ai des choses qui ont coulé pendant l'émission. J'ai réfléchi à deux, trois autres trucs. Vous allez trouver assez facilement, je pense.
Ok, génial.
Je n'étais pas forcément très inspiré, mais on va essayer.
Allez, vas-y.
Si tu as été inspiré, parce que tu as lancé le jeu.
Allez, vas-y.
On va commencer par les films.
Ouais. Ouh.
Le premier film... Alors, juste pour le choix des films, j'ai littéralement dit « Donnez-moi une année ». J'ai pris le premier film de la liste.
Il faut trouver le titre, donc, au final.
Il faut trouver le vrai titre.
D'accord.
Moi, je vais faire des faux titres.
Ok.
Okay.
Le premier s'appelle « Lire pour mourir ».
Écrire pour exister.
Bien vu.
Ouais, c'est,
ah oui, oui, écrire pour exister.
Avec Jennifer Garner. Voilà.
Non.
Si.
C'est le premier MTV film, c'est tout ce que je sais.
Attends, écrire pour exister, c'est pas l'histoire avec une meuf, c'est une prof, là ?
Si, mais si, c'est si. Jennifer Garner.
Non.
Si.
Ouais. Si. Alors il y a une autre version, parce que moi, celle que j'ai vue.
Non, toi,
pas
tu dois penser, Garner. Tu dois penser à Esprit Rebelle avec Michelle Pfeiffer.
Non, du tout.
Non.
Bref.
Non,
non. On enchaîne.
Vous avez bien compris le jeu ?
Oui, ouais, c'est bon.
Le deuxième, c'est Le jeu du mime.
Le jeu du Imitation Game.
Oui, bien vu. C'est facile, ça va.
Oui, oui, oui.
Oh, facile, ouais. Facile.
Le troisième, Les malfaiteurs de l'espace.
Les gardiens de la galaxie.
C'est bien. Oh, franchement, la quatrième, c'est Nos planètes similaires.
C'est toi le contraire.
Toi le contraire, ouais.
C'est assez simple. Et le dernier, Marc au pied d'argile.
Marc au pied d'argile.
Marc au pied d'argile.
Le géant de fer ?
Non.
J'y ai pensé. C'est grave.
Putain, là, je ne l'ai pas.
Attends, Marc au pied d'argile. Du coup, il faudrait changer
Bruce
le nom
Marc aussi ?
Non.
Non, non.
Vous le connaissez, ce film ?
Achille Talon ?
Un garçon génial.
Vous connaissez ce film ?
Ouais, Marc au pied d'argile.
Ouais, ouais. Au pied d'argile, donc ça doit être les mains ou la tête ? Tête de fer.
Edouard Romain d'Argent ?
Oui, oui.
Ah, mais pourquoi Marc ?
Eh ben, parce que si je redis.
Il a changé le prénom.
Ouais. D'accord, ok.
J'aurais pu dire Robert.
Mais tu dis prénom au pied d'argile, et là déjà.
T'aurais dit Edouard.
Je préfère mettre des noms, c'est plus marrant.
Eduardo.
Allez, oui, on continue.
T'as bien fait.
Vas-y.
Alors,
Axel.
Ce sont.
Mais j'ai rien pour filmer.
Il y a ça là.
Ce sont les jeux maintenant. La partie jeu. Et le premier jeu, c'est Le mythe de Zara, la flûte du passé.
Ocarina of Time.
Oh putain, bien.
Ah mais ça a commencé là ?
Bah oui, ça a commencé.
Je t'ai douillé, Arnaud.
Bah ouais. Bah...
Arnaud, je te le redis, c'était Le mythe de Zara, la flûte du passé.
Mais j'aurais pas trouvé.
Ça a commencé.
Le deuxième, c'est Pleinement vivant.
Faussement mort.
Alors, le titre est en anglais.
Ah, c'est un jeu ?
Oui. Bah oui, c'est des jeux.
Ok.
Still Alive.
Oui, la chanson de Portal.
T'adore Alive.
C'est toujours pas des jeux.
Tu peux nous redire le truc ?
Pleinement vivant. Là, normalement, Yann, il est censé trouver.
C'est un truc avec Dead, j'imagine, du coup ?
Non.
Ah bon, bah tant pis.
Resident Evil ?
Non,
alors, je vous rappelle que c'est Contrario, mais aussi Similio. Du similaire
ouais,
aussi.
Ouais, ça doit être full... plein de vie, un truc dans le genre. Je sais pas, là, je donne ma langue.
Traduisez.
En quelle langue ? Parce qu'en italien, en japonais.
C'est en anglais, c'est
redis-moi.
Fully Alive.
Pleinement vivant.
Half-Life.
Merci.
Ah, d'accord.
Half-Life. Ouais. Alors là, c'est pas la traduction littérale, mais c'est compliqué.
Ah non, c'est demi-vie, la traduction.
C'est la demi-vie.
Oui, mais justement. Bah, oui, mais pleinement vivant, voilà. Ça, Ça colle, et de toute façon, c'est mon jeu, donc je vous en
prie. Allez, enchaîne.
Le troisième, c'est le bambin des ténèbres.
Le bambin des ténèbres.
Le bambin des ténèbres.
Le bambin des ténèbres.
Oh là là. Child of Light.
Oui.
Ah ouais, putain.
C'est bien joué. Eh ben voilà, ça marche très bien.
Ah, c'est pas facile.
Il était super, ce jeu.
Ouais.
Apparemment.
Et une très belle bande-son.
Oui.
J'ai encore deux extraits. Enfin,
vas-y,
deux.
Balance.
Le guerrier pioche.
Minecraft. Shovel Knight.
Oui, Shovel Knight. Okay. Et le dernier extrait que je n'ai pas inventé.
Vas-y.
Fafi.
Fafi.
FIFA.
FIFA.
FIFA. D'accord, ok, bravo. GG. Fafi. C'est vraiment le contraire, quoi.
Ouais, voilà, c'est le contraire.
Excellent.
J'en ai un qui m'est sorti.
Vas-y,
on
vas-y.
Est sur des titres de musique. Vas-y. C'est la départementale vers l'extase.
I wet well.
Là, j'étais paumé.
Et si vous en avez, profitez-en parce que là j'ai plus d'idées.
Non, tu nous. On moi je vais donner la prochaine fois.
Je vais donner le titre comme un con, donc je vais le faire.
Je vous en referai.
Avec plaisir.
Quand j'aurai plus de temps.
C'est très sympa. Ouais, il y en a avoir qui sont déjà craftés, j'imagine.
Je crois qu'il y a même un jeu de société Contrario.
Ah bah voilà.
Ah cool.
Mais c'est plus simple, c'est plus marrant de les faire. Et alors mon must-have, c'est Boulbil la Bachate. Alors celui-là, si vous le trouvez.
Boulbil la Bachate, c'est un jeu.
C'est un porno, ça, non,
non c'est un film, et à la base, c'est un livre.
D'accord.
Attends.
Boulbil, la bachate.
Boulébil.
Attends.
Non.
Non, il est en train de
attends, je vérifie. Attends, c'était quoi? Attends. Non. Pardon, excusez-moi. Boule, chum, la bachate.
Bon, ça m'aide pas plus en vrai.
Moi
bah non, pour le coup.
Essayez.
Boule chum.
Donc... Boule chum, chum moche. Boule chum, la bachate.
Bon, boule, ça pourrait être du coup carré.
Ouais, moi aussi je pars sur.
Ouais. Non et boule continue. comme bouge ton boule ou rien à voir?
Comme une boule.
Ah. Bah, du coup carré. cube.
Une feuille, quelque
suivant.
Chose de plat.
Suivant.
Du coup cube ou pas du tout?
Suivant, la suite.
Ok. Chum, donc du coup belle.
Beau.
Le.
T'es dans quoi?
La bachate. C'est film et livre à l'époque. Voilà, à la base.
Moi, le, moche et méchant.
Le haut. Du coup, le haut. Le haut chien.
Non.
Je chauffe ou pas?
tu chauffes beaucoup. Ah, mais
moi, je donne ma langue au chat.
Attends.
Non, il faut que vous trouviez.
C'est attends, c'est cube beau. Il mélange tout. Le
Bob l'éponge carré.
le haut. Et du coup, chat. Chienne?
Non.
Non.
Cube beau.
Bilbo le Hobbit?
Oui.
Oh putain. Mais du coup, chat.
Bon, c'est un enfer.
Sérieux, putain.
Merci.
Ah, mais boule et bille, du coup. Ah ouais, c'est dur.
Merci, Ardo.
Bon. C'était pas sans peine. Hein.
C'est là-dessus que nous quittons pour cette deuxième partie de la Geek Nation. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière partie. Au revoir, les gars.
Salut.
Ciao.
Et à la prochaine.
Retrouvez l'intégrale de la Geek Nation sur SoundCloud et les meilleurs moments en podcast sur Spotify, Deezer, Amazon Music et Podcast Addict. À la prochaine.